Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi et Nadia Bencher. Au sommaire de ce point, actualité dans le sud de l'Espagne, une collision entre deux trains à grande vitesse a fait au moins 39 morts hier soir. Un bilan qui n'est pas encore définitif, selon les autorités. Le président syrien Ahmed El-Sharey a annoncé un accord avec les Kurdes syriens, prévoyant un cessez-le-feu et l'intégration de leurs forces au sein de l'État syrien. La France a salué cet accord. Et enfin, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc 1-0 après les prolongations à Rabat. Une finale sous très haute tension. La Confédération africaine de football a dénoncé le comportement jugé inacceptable de certains joueurs et officiels. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Proche-Orient. Le président syrien Ahmed El-Sharey a dénoncé un accord avec les Kurdes syriens prévoyant un cessez-le-feu et l'intégration de leurs forces au sein de l'État. Et ceci après deux jours de rapide progression de ses troupes dans les zones tenues par les Kurdes dans le nord du pays. Et la France a salué cet accord tout en soulignant, restant fidèle à ses alliés kurdes avec qui elle a combattu le groupe État islamique. Sur la situation en Iran, le président iranien a affirmé que toute attaque visant le guide suprême Ali Khamenei, le détenteur du pouvoir en Iran, serait une déclaration de guerre, réagissant à Donald Trump qui a appelé à trouver un nouveau dirigeant. Et après avoir imposé une coupure totale des communications dans le pays le 8 janvier, les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles envisageaient de rétablir progressivement l'accès à Internet. Et Emmanuel Macron réunit en ce moment même un conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation internationale, notamment sur le Groenland, l'Iran et la Syrie. Dans un tout autre volet, un porte-container transportant 383 tonnes d'aide alimentaire est parti hier du port du Havre à destination de Gaza, selon le ministère des Affaires étrangères. Et dans le reste de l'actualité, dans le sud de l'Espagne, une collision entre deux trains à grande vitesse hier soir, dont l'un a déraillé, a fait au moins 39 morts. Un bilan qui n'est pas définitif, selon les autorités qui parlent d'un accident extrêmement étrange. Et enfin, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu fera savoir aujourd'hui, lors d'un conseil des ministres, s'il a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 dans sa version finale. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et on débute par l'actualité. En Syrie, et l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Damas et les forces kurdes. Le président Ahmed El-Sharey dit avoir conclu un texte en 14 points avec le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi. Intégration des forces kurdes dans les structures de l'État et remise immédiate de provinces comme Deir ez-Zor et Raqqa. Sur le terrain, l'armée se déploie déjà dans l'Est. Et on fait le point avec vous, Nadia Bencher.
C'est un tournant qui intervient après deux jours de progression rapide des forces gouvernementales dans des zones tenues par les Kurdes dans le nord et le nord-est de la Syrie. Dimanche soir, le président syrien Ahmed El-Sharey annonce un accord avec les forces démocratiques syriennes, les FDS. Le texte en 14 points prévoit un cessez-le-feu et l'intégration des FDS et des forces de sécurité kurdes dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Il prévoit aussi la remise immédiate au gouvernement de Deir ez-Zor et Raqqa, des provinces sous contrôle kurde et peuplées notamment d'Arabes. Le chef des FDS, Mazloum Abdi, confirme, il accepte, dit-il, pour que cette guerre ne devienne pas une guerre civile, de retirer ses forces des régions de Deir ez-Zor et de Raqqa vers Hasakeh, une concession importante des Kurdes qui ambitionnaient de préserver leur administration autonome, instaurée de facto depuis plus d'une décennie.
Et concrètement, sur le terrain, ce retrait kurde est déjà visible. L'armée syrienne commence à se déployé dans l'est du pays et notamment dans les provinces de Deir ez-Zor.
À Deir ez-Zor, justement, ce lundi, des dizaines de véhicules militaires se dirigeaient vers l'est de l'Euphrate, qui marquait la limite entre zones kurdes et zones contrôlées par le gouvernement. Des files de voitures, de camions et de motos se sont formées devant un petit pont menant à la rive est du fleuve, qui était auparavant contrôlé par les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. À noter que la l'accord prévoit aussi que Damas prenne en charge les prisonniers du groupe État islamique et leurs familles détenues dans les prisons et camps contrôlés par les Kurdes. L'armée reprend également des positions stratégiques. Elle récupère notamment le plus grand champ pétrolifère de Syrie, celui d'Al-Omar, et les FDS annoncent leur retrait de secteurs incluant Al-Omar et Al-Tanak. Les détails doivent encore être finalisés lors de pourparlers annoncés ce lundi entre Ahmed al-Sharr et Mazloum Abdi. La France doit être présente selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Paris salue l'accord, appelle toutes les parties à le respecter, soutient l'unité et l'intégrité de la Syrie tout en se disant fidèle à ses alliés kurdes.
Merci Nadia pour toutes ces précisions. Et notre second dossier du jour est consacré au plan de paix de Donald Trump à Gaza. Le Conseil de paix censé gouverner l'enclave prend forme sous les critiques. La Maison-Blanche a désigné un premier organe exécutif chargé d'engager la phase 2 d'un processus fragile. Une phase 2 qui sera plus difficile à mettre en œuvre, comme le souligne Jean-Paul Chagnolo, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient.
Je crois qu'effectivement, la phase 2 pose toute une série de questions. C'est ce que vous avez évoqué. Il y a la question de la gouvernance qui est en train d'être, qui avance, c'est-à-dire un conseil de la paix et puis un comité exécutif où il y a des personnalités palestiniennes, la question du désarmement et du retrait de l'armée israélienne, et puis il y a cette aussi possible intervention d'une force de stabilité internationale dont pour l'instant on ne voit rien. Donc ça, c'est un peu les points théoriques, mais avant de continuer, il faut bien comprendre que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire au-delà des négociations qu'on peut voir, sur le terrain, les Israéliens sont en train d'installer leur emprise. Comme vous le savez, au terme de cette première phase, ils ont conservé le contrôle d'environ 50-55% du territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 2,2 millions de Palestiniens sont tous obligés d'être dans la partie qui reste, c'est-à-dire 45%. Donc déjà, ça c'est une réalité concrète. Autrement dit, il y a des faits accomplis en ce moment. Il y a aussi la volonté de reconstruire d'abord dans la partie occupée par l'armée israélienne. Autrement dit, il y a d'un côté le débat sur les thèmes qu'on vient d'évoquer, puis il y a une réalité pressante sur le terrain où l'armée israélienne contrôle beaucoup de choses.
L'armée israélienne qui pourrait quitter la bande de Gaza, quelles seraient les conditions pour qu'elle l'accepte ?
Pour l'instant, je ne vois pas l'armée israélienne quitter pas simplement la bande de Gaza, mais la partie de Gaza qu'elle occupe concrètement et sur lequel il y a des projets fonciers qui sont en train d'être étudiés avec les Américains. Donc c'est ça la question. Théoriquement, elle devrait se retirer, l'armée israélienne, mais il n'y a pas de calendrier. Et de toute façon, elle doit conserver, selon le plan Trump, une sorte de corridor de sécurité, je mets des guillemets à ce terme, qui prend quand même au moins 10% du territoire de Gaza. Donc vous voyez, on est dans cette espèce de contradiction où il y a un plan, mais il y a aussi une réalité concrète qui façonne le territoire aujourd'hui. Et par exemple aussi, pour être très concret, il y a le fait que sur la partie qui reste aux populations palestiniennes, ces 2 millions de Palestiniens, eh bien, on empêche encore l'aide humanitaire d'arriver, puisque une bonne trentaine d'organisations comme MSF et bien d'autres n'ont plus le droit de travailler à partir du mois de février. Donc on est dans cette contradiction-là. Ça, c'est, disons, mes premières remarques. On pourrait, si on en vient à ce que vous évoquez sur la deuxième phase, le Conseil de la paix, pour l'instant, ce qu'on en sait, ce qui a été annoncé, c'est en fait une sorte de tutelle, non pas internationale, mais américaine, puisque c'est Trump qui la préside. Il y a Marc Rubio aussi, il y a Kouchner, qui
est le secrétaire d'État, oui.
Il y a aussi Tony Blair. Donc on est dans une sorte de tutelle américano-britannique, ou en tout cas américaine surtout, ce que Blair ne fera que ce qu'on lui dira de faire. Eh bien, on n'est pas du tout dans une internationalisation. Donc que va décider ce conseil américain, c'est quand même une question majeure. Donc vous voyez, on est dans le flou le plus complet, et derrière ce flou très complet, on est dans un rapport de force très, très, très évident, qui est en fait les Israéliens continuent de contrôler l'essentiel. Ils ne sont même pas d'accord avec ce qui va se passer avec le Conseil de la paix. Donc c'est ça. Il faut bien comprendre en résumé deux choses. Un, il y a des débats comme ceux qu'on évoque, et deux, il y a une réalité de terrain qui s'impose.
Vous venez d'écouter Jean-Paul Chagnolot, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études méditerranée et Moyen-Orient, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio-Orient.